C'était vendredi, j'étais allé chercher au port de Québec, là, puis...
Tu sais, le capitaine, il s'organise, il dit, on fait pas à grand run, hein, dit, non, reste proche du bord, là!
Les matelots sont sortis du bateau, il y avait de l'air brûlé.
Je comprends,
non? Les enfants étaient hyper heureux de faire une petite croisière sur le fleuve Saint-Laurent, c'était de toute beauté à voir.
Ouais.
Et là, écoute, mes gars, ils commencent à vieillir, puis ils commencent à me parler des petites filles, là.
Écoute, moi, j'ai un ado à maison, un vrai de vrai. Je veux dire, il s'est transformé physiquement. Il a changé de voix. Ouais. Je le reconnais plus.
Comment ça mieux?
Puis je me suis demandé, c'est arrivé quand? J'ai l'impression, encore une fois, moi, je pensais que ça y allait graduellement. Non. C'est juste un piton qui s'est mis à on. Il s'est levé un matin, il avait changé de voix, il était rendu avec des épaules, un petit peu de boutons. Dit, voyons, oui.
J'ai remarqué ça avec le gars à Val, Oli, qui vient d'avoir 14.
14?
Oui, je... Mon beau-frère arrive dans la maison vendredi, puis là, on jase, pogne une petite bière, puis là, je dis, hey, t'as-tu remarqué comment Ali a grandi? Il dit, hey, oui, j'en parlais justement à ma blonde, puis il s'en vient d'abord, puis il dit, ouais, oh, c'est vrai que j'ai grandi.
c'est où que ça vient, ce voix-là?
Fait que moi, avec ma grande intelligence, j'étais avec mon plus petit, on était allé se promener dans le Vieux-Québec, le temps que le frère débarque du Louis-Joliette, puis là, avec ma grande intelligence, j'ai mon gars, je dis, pis, t'as-tu rencontré une fille? Et là, il dit, non, pas du tout. Puis là, on continue à jaser, et là, mon plus petit dit, moi, là, quand je vais aller chez Louis-Joliette, je vais revenir, je vais avoir eu plein de bisous de la part des filles. Fait que là, j'ai compris lequel que je devais checker, puis lequel qui était le plus timide. Belles histoires qui commencent.
Mon grand 16 en fin de semaine est allé à son premier party organisé chez une fille.
Yes. À 16 ans, son premier party organisé par
une fille. D'habitude, cette chose, c'est la gang de chums de gars ou lui-même, parce que c'est un très grand organisateur de party.
Ouais.
Mais tu sais, il y avait toujours des filles. Mais là, il est allé pour la première fois dans un party où c'était organisé par une fille.
Puis?
Ben, j'en sais pas plus. Là. Il était chez sa mère. J'ai jasé un peu avec au téléphone hier. Je m'en vais le chercher à job tantôt en avant.
Il est au party depuis vendredi. Là. Tout semble bien aller.
Ce que je sais, c'est qu'il organise un party mardi parce qu'il a vraiment aimé le party de samedi.
Ouais. Là, c'est ça. Moi, il y a 12. Là. Fait que tu comprends que je suis pas encore rendu là, mais... Le tien aussi à 12?
Oui.
OK. On achète des condoms quand?
Très bonne question. Je me suis même demandé si j'allais pas faire ça cet été. Là. Pour prévenir. Pas, tu sais,
ben oui.
Si t'en as besoin, il va en avoir là. T'sais?
C'est quoi, tu passes dans la chambre, tu pitches ça?
ça vient après une conversation, là, dans ma tête.
Une conversation.
Là, ouais.
Ah, okay.
Genre, tu sais que papa a accès à tes historiques d'ordinateur, hein? Fait que j'ai décidé que c'était peut-être un bon timing pour te parler de certaines choses.
C'est déjà commencé, là.
Oui. Rendu là. Je trouve que ça va vite. Hey, en passant, beaucoup de parents fiers qui partagent les photos de balles de finissant de leur grande fille, de leur grand garçon.
Ouais. C'est de toute beauté.
Ah, c'est incroyable. Tu sais, le genre d'affaires qui me faisait rien avant, là, puis là, je me vois à un moment donné arriver là avec mes grands, puis c'est niaiseux, là, je veux dire. Tu sais, avant, on avait un bal des finissants. Là, il y en a un à garderie, il y en a un à la fin du primaire, il y en a un, je veux dire, tu sais, il y a comme plein d'opportunités. Puis il y avait une petite soirée pour la fin du primaire de mon gars à son école aux Ursulines. Puis tu sais, moi, j'arrive là, puis je me dis... Hey, franchement, fin de sixième année. 5 minutes après, là, j'avais les sanglots, puis la chair de poule, puis oh, tabarnouche, c'est beau, puis mon enfant grandit. Pis... On est niaiseux de même, si tu veux.
Hey, avant de parler de dossier qui touche l'actualité, Angine de poitrine qui fait encore jaser deux, je m'explique mal la haine de certains individus, comme je m'expliquais mal dans le temps pourquoi des gens pouvaient détester au plus haut point Céline Dion. Je veux dire, Céline Dion, tu peux pas dire qu'elle est mauvaise. Là. Ouais. C'était une des artistes les plus en vue sur la planète. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu l'admettes, là. Toi, t'aimes pas ça, mais elle doit être bonne dans ce qu'elle fait. Angine de poitrine, c'est quelque chose de complètement différent qu'on n'avait jamais entendu au Québec. Moi, je trouve ça... Il y a deux tunes que j'écoute d'Angine de poitrine. Je trouve ça différent. Est-ce que j'écoute ça tout le temps? Non. Mais je suis tellement fier que ça parte d'une petite bourgade au Saguenay puis que présentement, ça à terre, il y a des gars de bands, des gars de Kiss qui trippent sur Angine de poitrine.
C'est incroyable.
C'est hot, là. Pis, ça vient chez nous.
Tu sais, il y avait les ventes de vinyle en Europe qui sont sorties du dernier mois. T'as Paul McCartney, t'as Harry Styles, puis t'as Angine de poitrine entre les deux. Pense à ça 2 minutes, là.
Même les gars doivent pas y croire.
Tu sais, hier soir, ils ont présenté l'émission Later with Jules Holland, qui est une émission qui se spécialise sur la musique. depuis 1992, c'est la meilleure émission de musique au monde. N'importe quel artiste de n'importe quel style s'est ramassé à Later à un moment donné. Puis petite histoire pour les jeunes, avant YouTube, quand on voulait voir nos bands en performance à quelque part, ben on achetait des DVD. Puis moi, j'ai une pile épaisse de même là, de 10 DVD de Later parce que les meilleurs moments étaient disponibles.
Ouais.
Fait que Later British Invasion, Later Rock, Later...
Ben cool, ça.
Puis, tu sais, moi, j'ai toujours vénéré, j'ai toujours voué un culte à cette émission-là qui est diffusée à la grandeur de la planète, mais principalement sur le vénérable réseau BBC en Angleterre. Et hier soir, ben, Later with Joe Zawinul avait deux invités canadiens, Shania Twain et Angine de Poitrine. Puis Angine de Poitrine a fait sa performance avec une Shania Twain qui est assis pas loin, qui a l'air de se demander sur quelle planète elle est débarquée.
Ouais.
Mais tu sais, il y a un an... Il y avait juste ma sœur qui connaissait Angine de Poitrine parce qu'elle venait de tourner un clip pour eux autres. Puis je parlais à ma sœur en fin de semaine, puis je disais, Sylvie, te rends-tu compte que ce que t'as filmé, là, Jane Simmons de Kiss l'a regardé,
ouais.
Mike Portnoy de Dream Theater l'a regardé, Dave Grohl des Foo Fighters l'a regardé, Jack White l'a regardé, c'est hot en bâtisse.
C'est complètement là. Malade, mais ça vient d'où cette haine-là du Québec?
Mauvais casting. Je pense qu'il y a eu une erreur de stratégie, à tout le monde en parle, de les présenter, déguiser, assis autour de la table à faire des petits bruits puis tout ça.
Comme si c'était des clowns.
Ouais, puis je pense qu'il y a beaucoup de boomers qui ont vu ça comme « Ah, c'est la génération du n'importe quoi, puis tout. » Pourtant, le dadaïsme, là, ça remonte à pas mal plus loin que les boomers. Là, mais puis en même temps, les boomers nous ont donné Raoul Duguay et Simonac. S'il y en a qui sont capables d'accepter n'importe quelle cochonnerie, c'est bien boomer.
« Moi, je viens de la Bétatibi. »«
C'est au bout. » En jaquette tout nu sur l'autoroute. Hey, ça prend du LSD pour déjeuner que c'est Raisin Bran.
Regarde,
là.
C'est des tunes de bord de feu.
Tabarnache.
Mettons le 23 au soir ou le 24, là, tu vas écouter Angine de Poitrine? Là?
Oui.
T'es vraiment fucké.
Oui, je le sais. Mais je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun de voir que les gars ont une tête sur ses épaules aussi. Ouais. Pis,
fait que c'est un mauvais casting, la haine.
Ben, moi, c'est un feeling que j'ai. C'était pas la bonne tribune et la bonne façon pour les présenter. T'sais, s'ils étaient allés à Belle et Bonne, puis qui avait fait une demi-heure de musique.
Ouais, mais il n'aurait pas été aussi vu.
Ben, écoute, il n'y avait pas besoin de ça. Tu sais, la vérité, c'est que tout le monde en parle. La seule différence que ça a faite, c'est que ça a généré de la haine au Québec, que les gars, puis je pense qu'ils l'ont... Je pense qu'ils l'ont pris dur. C'est deux flots qui font de la musique pour s'amuser. Puis là, soudainement, tout le monde les haït. Puis nous autres, ça fait deux mois qu'on essaie de les avoir en entrevue. Puis on est en communication quasiment permanente avec la gérance.
Écoute, moi, j'ai entendu une entrevue qui sortait vraiment de l'ordinaire avec un gars qui se présentait en chien.
Ouais.
Dans une station de radio.
Ouais.
J'ose pas imaginer une entrevue de Denis Gravel avec les deux gars d'Angine de Poitrine qui parlent pas.
J'ai même proposé à la gérance d'apprendre leur langue.
Okay.
Puis qu'on fasse doubler par des voix ici de professionnels.
J'adore.
Puis, tu sais, je voulais juste qu'ils se présentent en studio parce que, tu sais, je veux du visuel.
Ouais.
Mais ils ont été très, très, très échaudés par Tout le monde en parle. Puis je pense qu'ils revoient leur stratégie justement pour mettre l'emphase sur la musique puis peut-être laisser le reste là.
Ben c'est ce que j'allais dire, compte tenu que leur succès vient de la musique qu'ils jouent.
Écoute,
je pense qu'ils sont mieux de se concentrer là-dessus sur des performances musicales comme hier à la BBC plutôt que de donner des entrevues puis là ben recevoir ce courant de haine là.
Puis je suis un peu à la même place que toi Yann sur la haine parce que c'est le succès international le plus rapide et le plus gros de l'histoire du Québec.
C'est fou.
De l'histoire culturelle du Québec. Rentrez-vous ça dans le crâne les amis, c'est venu plus vite que Céline Dion. C'est venu plus vite que n'importe quoi qui est sorti du Québec, genre ever. C'est arrivé plus fort puis plus vite que Arcade Fire, Charlotte Cardin, nommez-les toutes. Le plus gros succès de l'histoire du Québec, c'est Angine de Poitrine. On peut être fier de ça, puis ça lance un message, moi, que je crie. Tu sais, Internet, oui, il y a beaucoup de mauvais côtés, puis tout ça. Mais quand tu pognes en feu, puis quand tu trouves quelque chose, tu peux le trouver à Alma, tu peux le trouver à Beyrouth, tu peux le trouver en Australie. Ça va se rendre, ça va faire le tour. Toutes les bizarres de la planète se sont mis à triper sur Angine de Poitrine en même temps. Des bizarres, là, il y en a 8 par ville à peu près. Là, moi, j'en suis un, là, je fais partie de la gang. Mais tu sais, à la grandeur de la planète, on est une christie de gang. Fait que quand on se met tous à triper, c'est la même affaire bizarre en même temps. Hey, puis les gars se font dire, hey, c'est comme Frank Zappa, puis c'est comme un tel, puis c'est comme un tel. Ils doivent capoter par des musiciens qui sont, écoute, méga établis. À Toronto, dans quelques semaines, ils vont jouer en première partie de Jack White. Puis entre toi puis moi, là, quand Jack White va sortir picoté puis qu'il va aller jammer avec eux autres, là, Toronto va être en feu, man!
Ben oui!
Puis ça va repartir viral à la grandeur de la planète. Là.
Sébastien!
Sébastien! C'est complètement...
C'est le nom de gérant, c'est ce que j'ai compris.
C'est ça?
Ouais, ouais. Ben le oui. gérant s'appelle Sébastien, puis à un moment donné, ils ont tombé sur ça, puis ils ont décidé de jammer.
Ça prend pas grand-chose.
Puis là, le monde, ils disent, que c'est des génies! Ils crient Sébastien!
Mais la musique est incroyable, puis la chimie entre ces deux musiciens-là right. est hallucinante. Bref.
Baromètre des politiciens chouchou. C'est la gang de Léger, Le Journal et TVA qui ont embarqué là-dedans. Sondage qui passe pas inaperçu ce matin, je peux te le dire. On a posé des questions aux Québécois ou aux Québécoises. Avez-vous plutôt une bonne, plutôt une mauvaise opinion ou vous ne connaissez pas les personnalités politiques suivantes? Mark Carney, au Québec, est le politicien le plus apprécié des Québécois. Si c'est pas ça que le... Si c'est pas ça un baiser de la mort pour Pierre Poilievre, là, je me demande c'est quoi. Les Québécois sont pas capables, malheureusement diront certains, puis je suis de leur côté, sont pas capables d'apprécier Pierre Poilievre, mais pas du tout.
Ah, je pense encore que la game est faussée à l'international. Là. C'est juste un aveu de dire on est solidaire avec notre premier ministre. Ouais, mais tu sais, quand je te dis là, que la fièvre pour la souveraineté est pas réelle, là, puis c'est pas plus que 30%. Moi, c'est ce que je vois là-dedans. Je vois pas une réelle affection pour le politicien Mark Carney, là, qui a le sex appeal d'un épi de blé d'Inde, même pas mûr. Là. Je veux dire, rendu là...
Qu'est-ce que tu penses de Jeff?
Jeff?
Ouais.
Beau bonhomme.
Merci. Son sex appeal?
Ben écoute...
Quel comparable
Ben j'ai vu sa blonde. Écoute, il y en a. Il faut qu'il y en aille.
Et voilà.
Absolument. Il doit avoir un secret qu'on connaît pas.
C'est clairement son pénis.
Ça peut pas
être autre chose. Il en a parlé l'autre jour. On regarde sa blonde, puis on regarde lui, mais on comprend pas.
Je pensais peut-être plus ton sens de l'humour, là, mais si c'est ton pénis, bravo.
J'ai fait
pour
la
les
salle
deux,
Albert écoute. Rousseau. Hein.
Avec tes pantalons.
Ouais. Oui.
Ouais,
j'ai pas eu besoin de la sortir à la
donc,
salle
Mark
Albert Rousseau.
Donc, Mark Carney a pas de charme.
Non, exact. Puis je pense vraiment que c'est juste pas un serment d'allégeance canadien, mais face à l'insécurité internationale, je pense que c'est une façon de réagir, de dire ben, on est derrière notre boss, celui du Canada. Je vois pas plus loin que ça.
Position numéro 2 au Québec, ça va te faire sourire parce que ça va directement en lien avec tes prévisions aux prochaines élections. Ouais. Christine Fréchette, 50% des Québécois trip sur Christine Fréchette. C'est très, très élevé. Là. Écoute, le deuxième étant pressenti pour être le prochain premier ministre du Québec, Paul Saint-Pierre Plamondon est à 44%.
Faudra de plus en plus dresser des parallèles avec la campagne électorale qu'on a vécue à Québec. Je pense que c'est Jeff le premier qui l'avait fait, là. Mais plus ça va, plus c'est ça qui arrive. Tu vas avoir quelqu'un qui était supposé perdre si on entendait tout ce qui se disait autour, qui va finalement juste profiter du fait que les deux autres se chicanent puis s'enfargent dans leurs propres bottines pour réussir à passer, pas par défaut, mais dans le camp de Christine Fréchette, présentement, là, on doit se taper dans les mains. Puis l'opportunisme politique étant ce qu'il est, là, il y en a beaucoup qui sont partis. Là, c'est 33, je pense, au total, toutes. Là, ça va commencer à revenir. Là. Ça va commencer à revenir, moi, convaincu, à cause des sondages, parce que la vibe a changé.
Depuis le début que je pense que Sonia Lebel va revenir.
Non, je serais même pas surpris.
C'est une hypothèse que j'aimais. C'est une des premières à avoir annoncé qu'elle partait. Elle est très aimée dans la population. Moi, je pense que Christine Fréchette va être capable de la convaincre.
Il n'y a pas un candidat qui était bien en vue qui a choqué les libéraux aussi en
Maître
fin Vérette. De semaine.
Maître Vérette.
Tu sais, c'est des signes là, de ce qui va bien, vraiment. De ce qui va pas bien.
Lui, il mentionne que c'est parce qu'il n'y a plus l'énergie nécessaire, là, mais je soupçonne les sondages.
Oui, je pense que oui. Tu manques d'énergie quand tes sondages sont moins bons.
C'est quatrième, le PLQ, dans la région de Québec. Fait que là, tu dis, OK, ouais, faut que je m'abatte.
Sinon, ce qui nous touche, nous, à Québec, puis je rappelle que c'est un sondage qui a été fait dans la province de Québec, Bruno Marchand, 37% des gens ont une opposition, ont une opinion plutôt positive de Bruno Marchand, 37% contre seulement 17% d'opinion négative. Ça me surprend beaucoup. Je pense qu'on aurait pu avoir un genre de 30-30 là, à Québec même.
Je sais pas. Je pense que l'entêtement de Bruno Marchand commence à rapporter. Tu sais, le pari de Avello, c'est un pari gagnant. C'est un système qui s'est étendu à grandeur de la ville puis qui fait de plus en plus d'adeptes. Le tramway gagne par défaut parce qu'on s'est tellement obstiné à dire qu'il se ferait pas. Tu sais, à un moment donné, quand tu t'entêtes trop, là, je pense que l'opposition et le mauvais travail de l'opposition a servi positivement Bruno Marchand dans le statement du « Ouais, j'étais pas pour le tramway, mais on peut-tu, genre, passer à autre chose? » Moi, c'est un peu le feeling que j'ai, là, que Bruno Marchand se fait pas féliciter, mais le fait que lui se soit tenu devant la tempête et les critiques... Il y a peut-être une forme de respect qui s'élève de
ouais,
ça.
Puis il faut faire attention aux chambres d'écho. Il a fini à 49 % du vote. Puis justement, parce qu'il y a deux adultes qui ont mal joué le jeu dans la pièce, puis lui est devenu l'adulte. Là. Souvenez-vous, c'était 28 % son premier sondage. Il a fini 49 % du vote, c'est plus 21. Fait que ce courant positif-là est encore là. T'es, malgré les chambres d'écho qu'on a sur les médias sociaux.
J'ai pas la même lecture que vous. Bruno Marchand, c'est quelqu'un qui polarise. Donc, t'es pour ou t'es contre.
En effet, c'est un bon point.
Il y a très peu de gens qui disent hey, « Moi, j'ai pas d'opinion sur Bruno Marchand. »
Bon
il y
point.
En a qui l'aiment vraiment beaucoup, puis il y en a d'autres qui sont pas capables de se sentir en peinture.
Mais tu sais, si on revient à la base, mettons qu'on a besoin de stabilité présentement, qu'on a besoin de se faire rassurer dans un climat d'insécurité.
Les Québécois, ils veulent pas chicaner.
Le choix le plus stable, c'est Mark Carney. On descend d'un étage. Le choix le plus stable, c'est Christine Fréchette.
Ben oui.
Puis si on revient dans notre cour, Yann, c'est quoi le choix le plus stable?
C'est Bruno Marchand.
C'est ça. Ouais. T'sais,
et mon point était plus du côté de la mauvaise opinion. Là, c'est un sondage provincial. À Québec, je pense qu'au niveau de la mauvaise opinion, on augmenterait. Est-ce que le pourcentage au niveau de la bonne opinion serait le même? Peut-être. Mais à Québec, moi, il n'y a personne que je rencontre qui n'a pas d'opinion sur Bruno Marchand.
Il va être cet après-midi dans le retour. Fait que je vais être obligé de travailler puis de préparer une entrevue.
Est-ce que tu vas 16h30? Est-ce que tu vas poser les vraies questions cette fois-ci?
Comme d'habitude, des questions complaisantes, toujours baldonnées.
Hey, tu dois poser 500 questions d'auditeurs.
Je suis tellement fatigué après ces entrevues-là. Puis oui, c'est la partie de ma job que j'aime le moins parce que c'est comme... Tu sais que tu vas perdre la game de toute façon.
Ouais.
Dans le sens où les gens qui haïssent Bruno Marchand, t'as bien beau faire ta job, et à partir du moment où il est sur ta tribune, tu sais, t'es un complice parce qu'il vient sur ta tribune.
Hey, je fais une parenthèse parce qu'on parle, quand on parle de Bruno Marchand, je pense toujours au tramway. C'est sur blvd.fm. Joël Lightbound, ministre fédéral, était dans On en jase vendredi puis il nous a confirmé qu'il n'y aura pas plus d'argent pour le tramway. C'est 2,75 milliards.
Sur le 7,5.
C'était une enveloppe sur 10 ans. Puis même si ça coûte plus cher, il n'y en aura pas plus d'argent du fédéral. On y a posé la question.
Pour ce qui est des scores d'appréciation les moins élevés, donc les gens qui sont les moins appréciés au Québec, là, dans le top 5, c'est complètement hallucinant. Il y a trois conservateurs.
Oui.
Un fédéral, deux provinciales.
Pas surpris.
Donc, Pierre Poilievre serait le politicien le moins apprécié au Québec. Très près, Éric Duhaime.
Il y a un message là-dedans, Yann. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça être conservateur. Je pense.
En fait, tout le monde est conservateur avec son propre argent. Je vous dis ça de même.
Ouais, c'est ce qui n'est pas faux.
Mais au niveau du gouvernement, on s'attend peut-être plus à avoir un gouvernement qui gouverne au centre.
Ben, je pense pas qu'être conservateur, c'est vouloir revenir aux valeurs traditionnelles puis être contre l'avortement.
Être conservateur progressiste.
Là. Moi, je pense que on a tout un fond de conservatisme dans le sens où, et particulièrement alors qu'on est en pleine insécurité, puis tu le vois, les gouvernements conservateurs, à grandeur de la map, il y en a plusieurs qui se sont placés puis qui sont pas mal plus à droite que ce qu'on a au Canada ou au Québec.
De toute façon, Mark Carney gère l'économie selon un calendrier conservateur.
Oui, effectivement, ce qui est encore plus enrageant pour Pierre Poilievre. Mais moi, être Éric Duhaime, parce que lui va se lancer dans une course électorale... Même dans le choix de ses candidatures, moi, je serais pas allé de la même façon qu'il est en train d'y aller présentement. C'est pas des gens polarisants que ça prend. C'est des gens pertinents. C'est des gens qui ont des choses à dire. C'est des gens intelligents qui vont proposer une façon rigoureuse et économique de gérer le Québec pour faire un peu de ménage. Je pense que le reste...
Karim El Ayoubi, c'est un plus pour le Parti conservateur.
Je pense que oui. Mais...
Donc, je continue. Parmi les mal-aimés, Pierre Poilievre, dans l'ordre, Éric Duhaime, Bernard Drainville. Moi, Bernard, j'ai le même problème que j'avais avec Jean Charest. J'étais pas capable de le sentir en peinture, Bernard. Je l'entendais dans des entrevues télé, j'étais pas capable. Entrevue radio, j'étais pas capable. Même à l'écrit, j'étais pas capable. Quand je l'ai rencontré, mais quel bon monsieur.
Ah oui,
Jean Charest, c'est la même affaire.
C'est
quand
ça.
Je l'ai rencontré, quelle bonne personne. J'ai donc bien du plaisir avec.
Mais t'as l'impression que Bernard Drainville est en politique pour Bernard Drainville. Puis ça, c'est transparent un peu. T'sais, le gars a été, rappelons-le, dans deux courses à la chefferie de deux partis différents.
Oui, puis là, on l'a vu encore plus avec son ralliement à Christine Fréchette, alors qu'il l'avait traité de tous les noms dans la campagne à la chefferie.
Ben oui.
Parce que là, il y a eu son petit dada, le super ministre.
Puis probablement que si les libéraux avaient été plus populaires, ben, il serait passé chez les libéraux pour compléter la trifecta.
Donc, la trifecta.
Délectez-vous de la roulette.
Donc, Maïté Blanchette-Vézina arrive quatrième dans le top 5.
C'est mérité.
Donc là, c'est trois conservateurs. Au Québec, je sais pas, l'image des conservateurs, ça semble pas bien.
Ben, socialement, on est plus à gauche. T'sais, je comprends qu'il y a beaucoup de gens économiquement qui sont plus à droite. Moi, j'en fais partie. Mais socialement, ce que je me rends compte, moi, puis même ici à Boulevard, en recevant les textos, c'est que les gens veulent protéger le filet social pour les plus démunis, les plus défavorisés. Socialement, on est plus à gauche. Au Québec, on force à l'avouer à un moment donné. Nous.
On dirait que, des fois, parce que Duhem est dans une position incroyable pour parler de gauche sociale. Il l'a fait, c'était-tu la journée, mon Dieu, la journée de l'homosexualité ou quelque chose dans le genre? On lui avait posé des questions, qu'est-ce qu'il faisait, lui, avec
journée
les commentaires?
Contre l'homophobie.
L'homophobie, exact, t'as raison. Puis la sortie que Duhem a faite là-dessus, moi, je l'ai trouvée extraordinaire.
Vraiment?
Il dit, je suis tellement chanceux d'être né au Québec, parce qu'on est une des sociétés, sinon la société la plus ouverte envers les homosexuels. Tu sais, mais quand il disait, quand je l'ai annoncé à mes parents, ma mère a pleuré parce qu'elle dit ta vie va changer puis ça va être plus dur. Puis j'y avais dit non, maman, ce sera pas plus dur. Ce sera pas plus dur, on est au Québec. Tu sais, puis je trouve que ce message-là aurait intérêt à prendre plus de place en général.
C'était porteur,
dans le discours
c'était rassembleur.
Ben, c'est inclusif. Tu sais, moi, j'y crois à. J'haïs la gauche puis la droite, là. On a deux mains, c'est pas pour rien.
Laquelle tu.
Hein?
Oh, rien.
Ben, quand t'es tanné, tu changes de main, hein? C'est ça qui arrive. Ben, c'est ça qu'on
c'est
fait.
Ça.
C'est ça qu'on fait avec nos gouvernements.
On est plus habile avec une, moins avec l'autre.
C'est ça qui arrive. Mais ben, tu comprends, on a deux mains, ça doit. Il doit y avoir une raison pour ça. Puis moi, je crois à un parti conservateur qui est capable d'éviter les débats trop populistes et trop faciles.
Ouais.
Puis qui propose juste de faire du ménage au Québec.
Écoute, c'est à eux autres de gérer.
Oui, absolument.
Geneviève Guilbeault fait encore partie des mal-aimés du Québec. Ouais. C'est quelle ascension fulgurante, quelle descente aux enfers hallucinante.
J'ai hâte de voir c'est quoi sa suite, elle.
C'est la radio.
Tu penses?
Ouais, je souhaite l'entendre à la radio. Je souhaite qu'un jour, elle nous raconte tout ce qui s'est passé à l'interne de la Coalition Avenir Québec. Je pense qu'elle va se garder une petite gêne à certains égards. Mais s'il y en a une qui a beaucoup de choses à dire, c'est probablement elle.
Si elle veut venir en entrevue, 45 minutes dans le retour, j'offre le vin rouge.
J'ai. Oui, puis ça va prendre une heure et quart, tu vas en entendre des bonnes.
Ben j'ai confiance.
Je fais le parallèle avec Nathalie Normandeau, moi. Elle est rendue à la radio. C'est une ancienne vice-première ministre qui avait monté, justement, l'ascension de façon spectaculaire puis qui a descendu aussi rapidement que la commission Charbonneau.
La cote d'amour de Mme.
Normandeau est à l'opposé.
Était à l'opposé.
C'est vrai.
Tout le monde aimait Nathalie.
Ça, c'est clair. Mais elle a chuté drastiquement avec la commission Charbonneau.
Vous pensez quoi de ça, vous autres? Cette roue-là qui tourne, tu sais? Médias, politique, médias, animateurs de radio, députés. Ouais. Ça m'énerve. Puis je sais pas comment vous vous placez, vous autres, par rapport à ça, mais... Tu sais, mettons que je suis un citoyen qui ne travaille pas à la radio, puis que je vois ça aller, puis je me dis, hey, ces gens-là dénoncent plein d'affaires, puis après ça, ben ils s'en vont au gouvernement, ils font rien, ils retournent à la radio, puis ils recommencent à dénoncer plein d'affaires. J'ai un malaise de plus en plus grand avec ceux qui font partie de ce carrousel-là qui passe du média à la politique, puis de la politique aux médias.
C'est une job de con, on va se le dire. Fait que ça peut être interrelié.
Oui, oui.
Est-ce qu'il y a ici au Québec où ça fonctionne comme ça? T'sais, René Lévesque, c'est un journaliste. Il est devenu politicien. Bernard Drinville, c'était un journaliste avant de devenir politicien. Martine Biron, c'était une journaliste avant de devenir politicienne.
As-tu dit René Lévesque puis Bernard Drinville dans la même phrase? Excuse, parce que comme bogué.
Je te parle de gens qui ont... C'est un correspondant de guerre, René Lévesque.
Oui, ça en était tout un. je déconne.
Mais j'en pense quoi? Moi, j'en pense que ce qui m'énerve là-dedans, c'est que quand les gens vont arriver, ils vont avoir un micro, et vont parler complètement l'inverse de ce qu'ils ont fait en tant que politicienne. Puis je vais donner l'exemple de Geneviève Guilbeault.
Ouais.
Elle n'a pas arrêté de nous dire « je suis de droite économique ». Je la crois. Si elle a un micro un jour, elle va prôner pour la droite économique. Elle n'a rien fait pour changer les affaires à CAQ.
Bon point. Très bon point.
Puis c'est le genre de choses que tu peux poser comme question. C'est un jour, vous l'avez en entrevue, pourquoi?
Puis, à troisième coupe de vin, je vais y dire. François voulait pas, c'est ça?
Mais qu'est-ce qui se passe avec le vin?
Ben, il y a...
ben, c'est parce que c'est par rapport au...
Il y a eu un podcast.
Il est encore en ligne?
L'été passé, probablement. C'était Hugo Girard qui faisait des podcasts et qui avait reçu Geneviève Guilbeault, puis le vin coulait à flot, puis on a retrouvé la Geneviève Guilbeault du bon vieux temps assez vite, t'sais, on va le dire comme ça. C'est la meilleure entrevue politique que j'ai entendue, je pense, dans la dernière
on
année.
On a su
là.
Qu'elle prenait pas de vacances avec ses enfants. Oui. Qu'elle savait pas trop ses enfants, Léo, à quel point...
Ça a sorti drôle, hein?
Ah oui, il met un flag ici sur cette entrevue-là.
Ah oh, oui, c'est ça. On était rendu à... Moi, je sais, j'avais sorti les cotes. On était rendu à 1h15 du podcast quand okay, ça a sorti. Donc, sûrement la troisième, quatrième écoute, coupe de vin, j'avais pas compté.
Quand j'ai dit 45 minutes d'entrevue que je payais le vin rouge, j'ai jamais spécifié le nombre de bouteilles.
Non, c'est ça.
Non. On n'en manquera pas.
On en manquera pas. En continu.
Oh. Est-ce que la Floride va être le club le plus difficile à affronter quand le hockey va recommencer?
Ils ont le trio des Hanson.
Les deux Kachuk.
Puis Sam
Bennett.
Puis Brad Marchand traîne ça à trois.
C'est terrible. Tu parles d'une équipe de bully. C'est Dumb and Dumber.
Le premier chiffre, tu mets les trois joueurs, puis tu mets Brad Marchand à la défensive là, pour
ouais,
un chiffre.
C'est ça.
Écoute, je te le dis tout de suite. Premier match de la saison régulière en Floride, ça va être ça, puis ils vont tous dropper mi-temps.
Ah, oh,
pour
oui.
le plaisir de le faire. Convaincu. Comme ben, tu te le dis.
Ah oh, ouais, puis je te le dis tout de suite. Là,
le père d'Estrade, ben rond, super fier de ses gars.
Leur première présence au Centre Bell. Écrit, puis monté bronze.
Ça sera pas propre. Là. Ça sera pas du hockey propre.
Le premier match contre Tampa Bay, ils vont vouloir installer la rivalité de la Floride.
Quand j'ai vu l'échange se confirmer hier, je me disais, oh, ça doit être le party chez les Kachuk.
Mais Jeff, est-ce que c'est parce qu'à Ottawa, Kachuk passait plus dans le champ?
Ouais, ben Brady Kachuk, plusieurs choses. Deux choses, moi, je pense, principales. De un, quand est arrivé l'événement où les partisans huaient l'hymne national américain, ça l'avait énormément dérangé.
Ouais, ouais.
Donc, à partir de là, sa cote de popularité a descendu à Ottawa. Puis,
ils n'ont pas un podcast, eux autres?
Oui, ils ont un podcast, ils ont dit beaucoup de choses. Puis je pense que justement, son podcast où il raconte beaucoup de choses, c'est à partir de son podcast que là, on a commencé à se poser des questions sur Linus Ullmark. J'ai l'impression que ça a laissé, puis là, c'est une hypothèse, mais que ça a laissé beaucoup de traces dans le vestiaire. Ouais. Il a dû avoir un clan Kachuk, un clan Ullmark. D'après moi, il y a plus de monde dans le clan Ullmark parce que, tu sais, Ullmark, c'est vraiment des problèmes de santé mentale qu'il y a eu, et ainsi de suite. Alors,
j'ai dit que...
Puis est-ce que Ottawa est à rebâtir?
Absolument.
Oui, ben oui.
Tout est à refaire.
Tout est à refaire.
Avec tout ce qui est arrivé, puis c'est là que tu vois que quand il y a des vraies chicanes d'ego dans le vestiaire, c'est pire que n'importe quoi.
Ben oui.
Puis on ramasse même pas de joueurs. Ça me rappelle quand on avait...
C'est ça.
Non, mais c'est comme quand on avait reconstruit les Sénateurs à l'époque, quand Hoffman puis Carlson s'étaient chicanés. La merde était pognée dans le vestiaire. On avait dû échanger Hoffman, Carlson après s'être rendu en finale de conférence. Puis c'est là qu'on était reparti en reconstruction.
Ben, regarde comment les Canucks de Vancouver se sont défaites à cause d'histoires similaires.
Ben oui, à cause de J.T. Miller et Elias Pettersson. Pettersson même plus capable de jouer au hockey tellement qu'il a été boulié.
Puis là, ben les Canucks, je veux dire, tout est tellement à refaire qu'ils vont probablement mettre Gallagher sur le premier trio.
C'est ça.
Ça va être incroyable.
Mais là, à surveiller parce que le père Malta, Manny Malta, s'en va coacher. Puis son fils est dans le top 5 et on parle qu'il repêcherait peut-être son fils au troisième rang.
Nice.
Ah ouais. Denis, 14h avec le maire?
Non, 14h avec les filles, 16h avec le maire. Ouais, c'est ça?
Ouais.
16h, ouais. Il y a beaucoup de, on est loadé cet après-midi, on a plein de monde.
Oui, ouais. Vous avez le maire Marchand?
On a le maire Marchand, mais on fait de quoi de drôle avec Paul Levesque cet après-midi?
Oh.
Elle nous donne son analyse comportementale de chaque membre de Gravel dans le retour. Parce que là, ça fait quelques mois là, qu'elle vient nous voir, puis c'est sa dernière.
Okay. J'ai pas de crainte pour Véro. J'ai pas de crainte pour Audrey.
Non.
Toi, tu veux-tu vraiment qu'elle fasse ton analyse? Là?
Je suis un livre ouvert. Je connais très bien mes problèmes.
C'est à quelle heure, ça?
ça, c'est juste avant le maire.
Okay.
Fait que rendu au maire, ça se peut que moi, je sois parti.
Ouais, mais c'est ça.
En position fœtale en bas au rez-de-chaussée.
Depuis la semaine passée que je t'entends dire que t'es en vacances à partir de lundi.
Ouais.
T'as trouvé la façon de partir en vacances.
C'est probablement,
pour
oui.
L'évêque va t'analyser.
Un congé forcé de santé mentale.
Donc, le maire à 16h, yes. 15h30, Paul Lévesque, qui va analyser Denis, Véro et Audrey. C'est
wow.
Sûr et certain que je veux écouter ça.
On s'en remettra pas comme émission, je pense.
Le show débute à 14h.
Une chance, les vacances arrivent.
Oui, oui, oui.
Vous allez pouvoir prendre du repos chacun de votre côté.
C'est un bon timing.
Merci, Denis.
Salut.
Sur les routes, ça se passe plutôt bien, là, en général. Seulement un petit ralentissement. Robert Bourassa, direction sud, à hauteur de boulevard de Bourneuf. Et Laurentienne, direction sud, pour prendre Capitale, c'est au rouge également. Mais sinon, en général, le reste, ça circule bien.
Le Pit Stop avec Denis Gravel.